Salut à tous, bienvenue dans le FC Stream Team. Salut Martin, heureux de te retrouver après deux semaines sans te voir.
Qu'est-ce qui s'est passé la semaine dernière?
On va s'excuser. Alors, c'est marrant parce que c'était presque prémonitoire. Il y a deux semaines, notre émission s'appelait « Nos excuses » à Luis Enrique. Là, on va faire nos excuses à tout le monde parce qu'on a eu un gros problème vendredi dernier qui ne nous a pas permis d'enregistrer l'émission. Une émission qui était pourtant
d'une rare qualité.
On a failli la dupliquer aujourd'hui. Pour refaire le même sujet, mais comme c'était après le match de l'équipe de France face à l'Azerbaïdjan, on est passé outre. Donc c'est à nous de nous présenter vos excuses. Et d'ailleurs, dans nos excuses, j'ai vu que ça faisait réagir notre sujet sur Luis Enrique. J'ai vu quelqu'un qui nous disait, enfin, en gros, pour les gens, que Luis Enrique était déjà dans le top. Je pense qu'à l'étranger, non, il n'est toujours pas vu à ce niveau-là. Et j'avais même quelqu'un qui me disait, oui, non, mais ce n'est pas de Guardiola, c'est de Cruyff qui se reconnaît. Oui, et Cruyff se reconnaît Rinus Michels. Donc on peut aussi remonter très loin. Mais bon, bref, en tout cas, on voit que ça vous a fait réagir. Donc déjà, on s'excuse.
Ouais, on s'excuse. Platement. Parce que des problèmes de technique, on va dire.
Mais là, comme on est une grande maison, aujourd'hui, le staff est doublé.
On sent que ça a chamboulé la chefferie, on va dire. Et donc là, si vous voulez, il ne peut pas y avoir de problème parce qu'aujourd'hui, on a Scorsese et Spielberg.
Ouais, là, c'est... Alors, je ne sais pas quel style on va avoir entre les deux,
mais... Moi non plus, mais...
Ça peut donner de belles choses.
En parlant cinéma, j'aimerais...
Je savais que...
Voilà.
J'aime bien comme il fait.
J'aimerais que dans les commentaires, commencer un débat, et j'aimerais que dans les commentaires, vous le poursuiviez. Alors, on n'est pas sur du foot, on est sur du cinéma, mais c'est juste cette petite introduction.
Ah ouais, on est un peu sur du foot quand même.
Maxime nous dit... Enfin, m'a dit...
J'attends.
Voilà, on préparait l'émission. Il m'a dit.
Je rectifierai la réponse.
Timothée Chalamet, c'est une grosse truffe, une pique.
Oh.
C'est rien. C'est pas
le
un
mec
bon acteur.
Décrit... Non, voilà. J'ai dit qu'on en faisait beaucoup avec Timothée Chalamet, qui ne me bouleversait pas.
Tu n'as jamais trouvé bien dans un rôle, quoi.
Non, il ne me bouleverse pas, c'est tout. Voilà, je trouve qu'on en fait beaucoup. Voilà.
Sachant qu'il a vu un film avec Timothée, un film et demi.
J'en ai vu.
Mais Maxime, c'est pas mal d'avoir des jugements.
J'en ai vu
définitifs. Sur des gens qu'il connaît à peine.
Le mec, il est fan de Timothée Chalamet parce qu'il est né à 30 bornes de chez lui.
Mais pas du tout. À voir. Là, c'est de la mauvaise foi.
Et je vous dirai pas où il est politiquement, Martin, mais il est aussi fan de gens qui portent des couleurs qu'il aime.
Mais ça n'a rien à voir. Timothée Chalamet, viens pas me dire que Call Me By Your Name, il a d'ailleurs une nomination aux Oscars.
Oui, c'est à vérifier tout à l'heure.
Il est fantastique.
Ouais. Alors,
Willy Wonka, c'est un film pour enfants, donc c'est peut-être pas assez bien pour toi. C'est
ça,
c'est
j'ai
peut-être,
pas,
c'est
ça,
peut-être
mais...
pas assez bien pour. Enfin, pour
tu fais
Maxime
pas, tu fais pas une carrière sur Willy Wonka.
Ouais, et sur Dune non plus.
Films science-fiction, c'est pas là-dessus qu'il y a les meilleurs.
Le biopic de Dylan où il est exceptionnel, il est salué par tout le monde, même pas par Maxime Dupuis. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas vu le film, donc il se permet de juger des gens qu'il ne connaît pas. Voilà.
Alors déjà des films que tu classes en science-fiction où tu as des grandes performances d'acteurs, il y en a pour ainsi dire pas.
Ouais, okay, bon.
Mais c'est pas grave. Dis-moi.
Les biopics non plus. Il y a pas de grandes performances
de biopics. Je comparais avec Adrien Brody et notamment The Brutalist parce que moi je regarde des films qui sont un peu plus Et Adrien Brody, on a un dans chaque mollet de Timothée Chalamet. Ouais. Voilà, c'est comme ça. Qu'est-ce que je te dise?
Dites-nous ce que vous pensez de Timothée Chalamet, si c'est un grand acteur ou pas. Voilà, globalement, c'est ça.
Mais est-ce que tu le rentres dans ton top 10 des acteurs
actuels, oui, évidemment.
Vas-y, tu le mets combien?
J'en sais rien, j'ai pas fait un classement, mais je le mets dans le top 5 peut-être.
Top 5, mais tu mets qui? Tu pars du principe que Robert De Niro existe toujours?
Non,
existe toujours.
Bah non.
Leonardo DiCaprio existe toujours?
Ah bah oui.
Brad Pitt,
oui, même si les grands films de Brad Pitt, ils commencent un peu à décliner quand même.
Once Upon a Time in Hollywood.
Oui, mais ça commence déjà un petit peu.
Bon, ok, pour F1, c'est nul.
Voilà.
Ça, on est d'accord.
Voilà. DiCaprio. Sean Penn qui est exceptionnel,
qui est formidable
dans Un combat après l'autre.
J'adorerais faire
un top des acteurs.
Cinéma. Non, pas un top des acteurs, on parlait cinéma pendant 2 heures.
Ouais, mais là on va parler football, Maxime. Je suis désolé, mais bon. Voilà, donc Timothée Chalamet est-il une truffe ou un acteur tout à fait honorable et un bon acteur de sa génération? Voilà.
Tu ne fais pas Tu ne fais pas grandir le journaliste en prétendant.
Mais toi
prétendant,
non plus, parce que toi, tu juges des gens que tu connais pas.
Mais je le connais pas. J'ai vu des films.
Bon, t'as vu un film et demi.
Il ne m'a pas bouleversé dans ses films. Ouais. C'est tout. C'est pas.
Ah,
c'est
pourquoi il m'a dit quoi aussi? Non, mais dans Dune, si tu veux, le problème, c'est qu'il faut que le héros soit costaud, qu'il ait des gros pecs.
Mais non. Je trouve que Dune, il colle pas au personnage.
Il déconstruit l'image du héros, Maxime. Donc, effectivement, ça chamboule un peu la petite vision étriquée que tu as du héros et hollywoodien. Voilà. Ta petite vision étriquée, il faut juste s'ouvrir un petit peu. Voilà, c'est tout. On démarre.
En tout cas, si vous n'avez pas vu The Brutalist, on en parlait aussi ce matin.
Et si vous n'avez pas vu Dune,
Bah, vous me direz lequel vous avez préféré. Voilà. Cinématographiquement parlant, okay. Je parle bien. Bon, pour, bref. Alors que Dune est un très bon film, c'est pas la question.
Ah, merci.
C'est en dessous. Voilà.
Ouais. Bref. Trois sujets aujourd'hui, Maxime. Trois sujets foot, zéro sujet ciné.
Tu vas t'en manger ce midi.
Ouais, ça j'aimerais bien.
Il est midi 40 et ouais. Honnêtement, j'ai mangé habituellement et je sais pas comment je vais être sur l'émission.
Bon, tu vas être comme d'habitude. Médiocre. Premier sujet, Paris. Est-ce que Paris doit faire sauter la banque pour Ousmane Dembélé? Vous savez, c'est sorti dans la presse cette semaine. Il voudrait une revalorisation salariale. Est-ce que c'est normal vu qu'il vient d'avoir le ballon d'or?
On va parler ensuite de l'OM et de l'interview donnée par Pablo Longoria dans un podcast de business, Business of Sport, où il a expliqué qu'il a donné plusieurs angles d'attaque sur l'OM, mais qu'il aimerait bien que l'OM gagne un titre dans 5 ans. Est-ce que ce discours, selon vous, est audible? Est-ce que l'OM peut se contenter d'un titre en 5 ans, quel qu'il soit?
Et on terminera l'émission avec un sujet un peu particulier sur, Maxime vient d'en faire une d'ailleurs avec Timothée Chalamet, sur nos plus grosses erreurs de jugement sur des footballeurs. Donc c'est très simple, c'est soit des joueurs qu'on ne voyait pas faire carrière, des joueurs, on pensait que c'était des truffes et finalement ils ont fait une grande carrière, ou au contraire, des joueurs dont on pensait qu'ils avaient un potentiel limité, qui ont fait une grande carrière. Donc Maxime, il y en a toute une cargaison parce que lui, les erreurs de jugement, c'est son ADN. Moi, j'ai dû chercher un petit peu.
Je rappelle, le sujet, alors pour le coup, le sujet, celui-là est de Martin.
Bah oui.
Donc c'est qu'il avait des idées déjà.
Non, parce que je te côtoie tous les vendredis, Maxime. Les erreurs de jugement, c'est mon quotidien. Enfin, c'est mon... C'est, voilà.
Je rappellerai que j'avais dit que le PSG pouvait être plus fort sans Kylian Mbappé.
C'est sa médaille.
Le PSG doit-il casser la tirelire pour Ousmane Dembélé? Ousmane Dembélé est sous contrat avec le Paris Saint-Germain jusqu'en 2028. Il vient de gagner un ballon d'or et généralement, quand on gagne un petit truc comme ça, on se dit que on peut passer au tiroir caisse. Est-ce que selon toi, Martin, déjà, on peut même poser la question de Dembélé, est-ce qu'il a raison de faire ça? Est-ce qu'il ne prend pas un risque? Et surtout, est-ce que le PSG a intérêt de réévaluer le contrat d'Ousmane Dembélé?
Qu'il ait raison de faire ça, oui. Le ballon d'or, tout le monde en profite. Lui, le Paris Saint-Germain, qui va faire une com' dessus aussi, qui va se servir de ça. Donc, c'est normal qu'il en tire les dividendes. Et puis, finalement, qui demande une revalorisation de contrat par rapport au moment, à son statut, quand il a signé au Paris Saint-Germain, où, je vous le rappelle, il sortait quand même d'un échec au FC Barcelone. Il n'était pas le joueur qu'il est aujourd'hui. Il a grandi, il a mûri, il a marqué des buts, beaucoup plus de buts. Donc, c'est normal que, par rapport à son salaire initial, il demande une petite augmentation. Après, si on prend son salaire par rapport aujourd'hui aux meilleurs joueurs du monde, si on prend Yamal, il est à 16,7 millions d'euros. Dembélé, il est à 18 millions d'euros par an. Alors, Mbappé est à 31 millions d'euros. Ouais. Mais disons qu'aujourd'hui, Dembélé est en gros autour du top 10 des joueurs européens. Est-ce que c'est scandaleux? Est-ce que ça ne correspond pas du tout au joueur qu'il est? J'en suis pas sûr. Je pense que son salaire aujourd'hui équivaut à peu près à sa place dans la hiérarchie européenne. Et il y a autre chose. Est-ce qu'aujourd'hui, un club proposerait plus à Ousmane Dembélé? Est-ce qu'aujourd'hui, un club miserait tout sur Ousmane Dembélé? Ce que je veux dire, c'est que Dembélé doit autant au Paris Saint-Germain que ce que le PSG doit à Ousmane Dembélé. C'est-à-dire que c'est un joueur qui s'est transformé grâce à un collectif et grâce à un club et grâce surtout à un entraîneur, grâce à cet écosystème-là. Donc, si tu le sors de cet écosystème-là, c'est comme à l'époque quand tu sortais les joueurs de l'Ajax Amsterdam, quand ils étaient monstrueux dans un club et qu'ils allaient se perdre ailleurs. Voilà, je pense qu'aujourd'hui, Dembélé doit être aussi très conscient de ce qu'il doit à Luis Enrique, au club, à tout ce qui a été mis en place autour de lui. Et enfin, et ce sera la fin de mon argumentation, Paris ouvrirait une boîte de Pandore quand même. S'il devait augmenter Dembélé et partir sur des hauteurs auxquelles il se refuse aujourd'hui d'aller, sur des 30 millions d'euros, ce qu'ils offraient avant à des Neymar, à des Messi, à Mbappé, j'ai peur qu'il retombe dans une forme de fuite en avant. Donc, qu'il le fasse, c'est normal. Est-ce que Paris doit céder? Je ne suis pas certain.
Oui, Paris rouvrirait cette boîte de Pandore.
Oui, tout à fait.
Après l'avoir fermée, c'est brillamment finalement. Comme tu lis, là, il a remporté le ballon d'or. Un ballon d'or, ça se monnaie. Généralement, c'est marrant, ça se monnaie aussi au moment de la signature du contrat. Parce que qui n'a pas de clause ballon d'or dans son contrat? Il n'y en a pas beaucoup. Alors là, on apprend dans l'équipe qu'il y a deux versions qui s'opposent. C'est qu'il n'y en aurait pas dans son contrat. D'autres disent qu'il en aurait. Donc ça, déjà, ça peut jouer. il est déjà, il y a un truc moi qui m'interpelle et qui m'agace, mais c'est pas seulement lui, c'est qu'il est en fin de contrat en juin 2028.
Oui, il y a un peu de temps.
C'est dans 3 ans. À quel moment un club doit se sentir obligé, le couteau sous la gorge, de renégocier un contrat? Non, tu as signé un contrat long. Regardez ce qui se passe en NBA. Les joueurs, maintenant, ils ont compris, ils font des contrats plus courts. Bah, que le joueur, s'il a signé un contrat très long, il accepte d'aller au bout, ou presque, et il renégocie plus tard. Et s'il veut, s'il croit en lui, et justement sur un destin comme ça, il fait un contrat court en disant, bah, attendez, dans 2 ans, je serai libre, ou je re-signerai. Voilà. Tu as dit son salaire dans le top 10 européen. Pour moi, je suis d'accord avec toi. Mmh. C'est à peu près ce qu'il mérite. Et même, je dirais, quand il arrive au PSG, c'est presque surpayé.
C'est surpayé.
C'est surpayé. C'est une bonne affaire pour le PSG à l'époque. Au niveau du transfert, je crois que c'est 50 millions d'euros. Donc, ouais. Par rapport à ce qu'ils ont fait à côté, ce n'est pas une mauvaise affaire, en tout cas.
Aujourd'hui, surtout, globalement, tu as Mbappé et Haaland qui sont vraiment au-dessus. Et sinon, après, tu as une...
Et surtout, moi, je pense que quand il revient en France... Moi, j'y vois comme un petit renoncement, c'est-à-dire qu'il a fait Dortmund, le Barça, qui était le club de ses rêves, et finalement, on se dit, bon, il revient en France, on ne sait pas trop à quoi on va avoir affaire. Il faut se rappeler que le Dembélé de l'année et demie avant son explosion de l'Ajax, bah, c'est le Dembélé qu'on connaît, c'est-à-dire un joueur virevoltant, qui a du mal à finir, et qui est, à part les blessures, ça, c'était mieux parce qu'il n'y avait quasiment rien, on ne savait pas trop à quel sein se vouer. Maintenant, la position du PSG, elle est simple, c'est-à-dire, c'est tout simplement, c'est le risque et les gains. C'est-à-dire, est-ce que finalement le PSG prendrait un énorme risque à ne pas accéder aux demandes d'Ousmane Dembélé? Moi, je pense qu'il n'est pas si énorme que ça, parce que déjà, personne n'est irremplaçable. On l'a vu, on le disait avec Kylian Mbappé, et que pas plus Dembélé qu'un autre serait irremplaçable. Moi, je garde toujours dans un coin de l'esprit, peut-être que cette année me donnera tort, qu'il fait une année, enfin 6 mois fou. Statistiquement, qu'il n'est pas devenu un buteur du jour au lendemain et qu'on va redevenir sur un truc un peu plus, peut-être mieux que sur la première année et demie, mais peut-être pas sur les hauteurs de l'année dernière. Il a gagné ce ballon d'or, c'est le joueur de l'année vraiment. On n'a pas élu le meilleur joueur du monde, on a élu le joueur de l'année. Donc moi, je pense que le PSG aurait tort d'accéder. Enfin, après, tout, encore une fois, ça se monnaie, mais je veux dire, si les demandes sont surréalistes.
Après, ça peut être aussi une prime au mérite
oui,
aussi.
Exactement.
Tu es allé le chercher, tu nous as fait gagner la Ligue des Champions.
Et tu l'as dit, ça c'est important, le PSG a profité évidemment ballon d'or de Dembélé. Oui. Pour la marque PSG, comme on l'entend, c'est dingue. Et puis le dernier argument qui presque est le plus important pour moi, tu l'as dit.
Du moins quand je pourrais parler,
C'est t'ouvre la boîte de Pandore. C'est-à-dire que Dembélé a le ballon d'or, Hakimi. Pourquoi je n'aurais pas une révélation? Neves, pourquoi pas une révélation?
Nuno
Mendes, Vitinha. En fait, voilà. Donc, le PSG a fait sa force du collectif. Dans la construction de ce PSG-là, institution plus forte que les joueurs, il ne faut pas accepter n'importe quoi de quel que soit le joueur.
Et en plus, tu vois que avant, les individualités étaient plus fortes que le Paris Saint-Germain, on l'a dit. Et pour ceux qui nous suivent depuis longtemps dans la Stream Team, on l'a rabâché ici. C'est-à-dire qu'il fallait que tu surpayes effectivement des Neymar, des Ibrahimovic, pour qu'ils viennent faire briller ta marque Paris Saint-Germain. Et donc, tu leur offrais des contrats qui n'avaient aucun sens. Pour Mbappé, c'était pareil aussi. C'est-à-dire que c'était le meilleur joueur français. Il fallait que tu l'aies sous la main. Donc voilà. Aujourd'hui, la marque PSG, le club, est plus grand que chacune des individualités. Le meilleur exemple, c'est ce début de saison. C'est le match face au FC Barcelone. C'est-à-dire que Dembélé n'est pas là, Doué n'est pas là, Marquinhos n'est pas là. Il te manque à peu près tout le monde. Mais ton club gagne et ton club est champion d'Europe. Oui. Aujourd'hui, l'institution, le club Paris Saint-Germain est plus grand que chacune des individualités qui la composent. Donc, tu n'as plus besoin d'aller payer un mec 30, 40, 50 millions. Et Dembélé, ce début de saison, nous prouve aussi qu'il n'est pas là. Évidemment que le PSG est plus fort avec lui parce que Luis Enrique a mis des choses en place. Mais ce que Luis Enrique a mis en place est tellement puissant, tellement fort que finalement, si on caricature, on pourrait se dire qu'en enlevant chacune des individualités, en la remplaçant, l'impact est réduit sur la compétitivité de ton équipe. Donc, cet argument-là, il ne va pas en faveur de faire sauter la banque pour Dembélé, tu l'as dit, pour Hakimi, etc. Évidemment que tu as certains des meilleurs joueurs du monde à leur poste et que c'est plus compliqué, effectivement, si Dembélé, Hakimi et les autres s'en vont. Mais malgré tout, il ne faudrait pas céder à cette facilité-là qui serait, parce que Paris en a sans doute les moyens aussi, qui serait d'augmenter tout le monde et de retomber dans une sorte de, de ce que je disais tout à l'heure, de fuite en avant. Mais si tu prends les salaires aujourd'hui, qui est devant Dembélé? T'as Mbappé, Vinicius, Lewandowski, Kane, Musiala et Salah, globalement.
C'est pas illogique, en fait.
Pas illogique.
Mais en même temps, on va pas lui reprocher, je le redis.
Mais oui.
pas reprocher à son clan et à lui d'aller chercher. Ben, c'est un employé.
Et Haaland, j'ai oublié, évidemment.
Il a surperformé. Il a raison de tenter, voilà. Mais je sais pas si pour le PSG, encore une fois, c'est presque. Ça me fait penser. Alors, l'année dernière, à peu près à la même époque, enfin, même un peu plus tard, on parlait du cas PSG, on parlait de Luis Enrique, etc. Et on se disait, mais même. Enfin, moi, mon argument, c'est de dire s'ils ne sortent pas des poules, c'est pas grave. Enfin, si, c'était grave, de Ligue des Champions, mais il ne fallait pas changer. C'est-à-dire, quand ça allait mal, ne pas changer, parce que s'ils croyaient en quelque chose, ils avaient appris la patience, c'est essayer de continuer. Ben là, je pense que pour Dembélé, c'est pareil. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de raison de changer. Alors, l'argument, je pense que le très mauvais argument à donner, ce serait le fair play financier et ces choses-là. Parce que bon, on nous ressort ça, mais ça fait 14 ans maintenant que le QSI est là, et qu'en fait, le fair play financier, ils s'en foutent un peu, et tant mieux pour eux. Mais en tout cas, voilà, au moins d'expliquer cet équilibre de vestiaire, je pense qu'une revalorisation, pourquoi pas, mais pas faire n'importe quoi, et surtout pas retomber dans cette... Parce que imaginez un Dembélé qui est augmenté au prix d'un Neymar, et qui retombe un peu dans ses travers. Qu'est-ce qu'on dirait ?
Tu passes pour un, ouais.
Voilà, et ils ont pas vu à long terme, etc. Alors qu'on a l'impression, justement, que le PSG a construit un truc qui est une vision assez saine, au moins sur le long terme.
Maxime a été mon chef pendant 10 ans, et là, vous comprenez pourquoi je n'ai pas eu d'augmentation pendant 10 ans. Voilà, parce qu'à chaque fois, il avait à peu près cette
Alors
cette
justement, j'ai les entretiens annuels sous les yeux, je vais vous donner les augmentations par an en pourcentage, et à la fin, le salaire.
Heureusement, il ne l'est plus aujourd'hui, donc je me permets, ouais, ça met un peu de beurre dans mes épinards, et grâce à vos chefs, alors, mes enfants ont des cadeaux à Noël, ce qui n'était pas le cas quand Maxime était le mien.
Attention, l'histoire ne s'arrête jamais. On ne sait jamais.
On passe au deuxième sujet.
Ouais.
Le sujet qui devrait inspirer Maxime, parce qu'il en parle souvent. Pablo Longoria, dans un podcast Business of Sport, nous dit...
En anglais,
qu'il faudrait que l'OM... Enfin, qu'il souhaite que l'OM remporte un titre dans les 5 prochaines années. Maxime, déjà, qu'est-ce que tu penses de cette déclaration-là ? Je sais qu'il frétille, vous ne voyez pas, mais derrière, les jambes, elles tremblent. Et est-ce qu'ils se font le doigt dans l'œil, notre ami Pablo ?
Alors, dans cette décla qui a été reprise un peu partout, c'est marrant parce qu'il ne commence pas par ça. Il commence par, en gros, pérenniser le club en Ligue des Champions. C'est un podcast de business. Il faut bien penser que c'est un podcast de business. Donc, il parle aussi d'expérience spectateur au Vélodrome, etc. Donc, il se tourne un peu sur le financier. Oui, c'est déjà que c'est la moindre des choses que l'OM gagne un titre dans les 5 ans. Surtout que si l'OM ne gagne pas un titre avant 5 ans, ça commencera à faire longtemps, ça fera 17 ans. 18 ans sans titre.
Et c'est pas normal, ça.
Et ce sera plus long que la rupture entre la Ligue des Champions 93 et le titre de 2010 à la Coupe d'Afrique. Donc, en gros, vous voyez, cette période-là qui a paru être éternelle pour les supporters de l'OM de 17 ans entre la C1 et la Coupe de la Ligue plus le titre de champion de France, après il y a les années des champs, et bien là, on aurait dépassé d'un an. Donc, évidemment, mais c'est marrant parce que l'OM est un club, même historiquement, qui a fonctionné souvent comme ça. Mais bon, ça, c'est un détail par cycle. Mais oui, c'est la moindre des choses de gagner un titre. Alors, là où il est malin, c'est qu'il dit un titre, il ne dit pas le titre. Mmh. Parce que si on parle du titre, on pense à quoi ? Évidemment, au titre de champion de France.
Ou à Ligue des Champions.
Ouais. Maintenant, on peut réfléchir à ce qui est normal et pas normal. Est-ce qu'il est normal que
l'OM... Maxime va m'énerver.
...n'ait pas gagné un titre ou n'en gagne pas un dans les 5 années à venir et n'en ait pas gagné depuis 2012 et la Coupe de la Ligue ? Ben non, ce n'est pas normal. C'est pas normal que l'OM n'ait pas gagné la Coupe de France depuis 1989. C'est pas normal que l'OM perde la finale en 2007 face à Sochaux. C'est pas normal qu'il la perde en 2006. C'est un peu plus normal qu'il la perde en 2016 contre le PSG. Et comme c'est pas normal que l'OM se fasse sortir par Andrézieux qui voulait au premier tour des Coupes de France. Donc ça, c'est sûr.
Respecte Andrézieux, mais vas-y.
Ce qui est pas anormal, en revanche, c'est que l'OM n'ait pas gagné le championnat. Alors, si on me dit toujours, oui, mais Lille l'a gagné, oui, mais Monaco l'a gagné. Alors Monaco, c'est un cas à part, parce que là, Monaco, c'est peut-être la seule équipe de France qui, pendant une saison, a eu un effectif plus fort que celui du PSG. On peut au moins faire un touche-touche. Lille, ok, c'est une anomalie, mais en l'occurrence, que l'OM ne soit pas champion de France, c'est pas anormal. Que l'OM espère l'être au début de chaque saison, c'est plutôt normal, mais qu'à la fin, ça se termine pas très bien, bah oui, c'est pas anormal, parce que je ne vais pas revenir là-dessus.
Attends, j'enclenche la manivelle, vas-y.
On est à 3,5 de budget de différence. Et c'est ce qui est normal pour l'OM, mais aussi pour les autres. Quand un club a 850 millions de budget et qui démarre le championnat comme il démarre, avec une défaite justement à Marseille, un nul et coup-ci, coup-ça en mettant des jeunes, bah voilà, et la marge est trop importante. Donc oui, ça serait mieux pour l'OM qui ait quand même une Coupe de France à un moment. Parce que, en effet, moi, ce que je trouve pas normal, c'est de pas avoir gagné de titre depuis 2012, ne serait-ce qu'avoir attrapé une Coupe de la Ligue quand elle existait encore, ou une Coupe de France.
Guingamp, Saint-Étienne, Toulouse, Nantes, Lille, Monaco, Strasbourg, Bordeaux, Rennes. Voilà les clubs qui ont gagné un titre, que ce soit champion de France, Coupe de la Ligue ou Coupe de France.
Et oui, évidemment.
Depuis 2012 et donc la dernière Coupe de la Ligue de Marseille. Donc là, il y a deux anomalies, c'est que tu ne retrouves ni Marseille ni Lyon, qui sont les deuxième et troisième budgets de Ligue 1, globalement, sur cette période-là. Ça, c'est inadmissible. C'est inadmissible que Marseille n'ait pas effectivement remporté un trophée. Mais dans ce que dit Longoria, j'ai pris la décla en intégralité. Gagner le prochain match, donc qu'est-ce qu'on souhaite à l'OM ? Donc lui, il dit gagner le prochain match, gagner le mois prochain, se qualifier pour la Ligue des Champions, gagner un trophée, ce qui vous aide à gagner de la stabilité. Là, on touche le point essentiel, c'est-à-dire que tu parles... Je suis d'accord avec toi quand tu parles de budget.
Ah non, mais t'as raison. Mais
oui, il faut juste arrêter de se cacher derrière cette excuse qui en est une, mais il ne faut pas la sortir là encore comme un gilet pare-balles ou comme un bouclier à chaque fois qu'on pointe à l'OM son manque de résultats, son manque de palmarès, son manque de ci, son manque de ça, ou l'écart face au Paris Saint-Germain. Ça ne peut pas être la seule excuse, puisque je t'ai cité tous les clubs qui avaient gagné les titres. Quand on parle de stabilité... En ces termes-là, dans cette optique-là, l'exemple du Paris Saint-Germain est très bon. C'est-à-dire que le PSG, pendant des années, ils ont dit, comme Longoria le dit, on va gagner dans 5 ans la Ligue des Champions, on va gagner la Ligue des Champions, on va gagner la Ligue des Champions. Ils n'y sont jamais parvenus en dépensant des sommes folles. Ils ont rationalisé leur projet, ils ont acheté un peu de stabilité, évidemment avec des joueurs qui coûtent un rein, mais malgré tout, avec une forme quand même de stabilité dans l'effectif, avec un entraîneur auquel ils ont fait confiance. Et comme par hasard, ils ont fini par gagner la Ligue des Champions lors de l'année où on s'y attendait le moins, quand même. Hein. Ça faisait 10 ans qu'ils avaient des équipes sans doute plus clinquantes, sans doute plus excitantes sur le papier, mais ils l'ont gagné. Marseille doit prendre cet exemple-là. Et quand il nous dit « ça apportera de la stabilité », c'est un peu l'hôpital qui se fout de la charité, il se fout clairement de notre gueule, là, le Pablo Longoria. Parce que qu'est-ce qui va se passer l'année prochaine ? Là, ils ont une super équipe. Franchement, l'OM, ils ont une super équipe. Peut-être que, pourquoi pas un titre cette année ? Alors, peut-être pas de champion de France, mais une coupe, pourquoi pas ? Pourquoi pas faire un bon parcours en Ligue des Champions ? Mais ça ne changera rien ! C'est-à-dire que le 31 mai, de juin, juillet, août, ça va être de nouveau n'importe quoi. Il va en vendre 25, il va en acheter 37. Et quand on parle de stabilité, bah, c'est le vrai problème. Regardez sur cette période le nombre d'entraîneurs qu'a consommé l'Olympique de Marseille, le nombre de joueurs, j'en parle même pas. Donc le vrai problème, il est sans doute autant là que sur la différence, évidemment, pharaonique de budget avec le Paris Saint-Germain.
Ouais. Ah, si on le prend en mots, comme tu as dit, là, c'est lui qui parle de stabilité. Ouais, et puis ce qui est fort, c'est qu'il y a 2-3 ans, il donne une interview, je crois, à SoFoot, où il explique... le football moderne, c'est du mouvement permanent, etc. Et puis à un moment, il se rend compte que c'est une connerie parce que la saison se passe mal et il dit non, il faut de la stabilité. Or, à partir du moment où il a dit qu'il fallait de la stabilité, il y a sûrement eu 40 ou 50 mouvements de joueurs derrière et j'en passe sur les entraîneurs. Déjà, l'OM a gardé son entraîneur cette année, ce qui est déjà une forme de performance. Après, ce qui peut changer, et si on s'en tient au mot, parce qu'on pourrait très bien entendre le fait que l'OM n'est pas stable parce qu'ils sont obligés de faire des coups, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'argent, parce qu'il n'y a pas de revenus de la C1. Si Longoria arrive, et son groupe de Zerbi, Benassia et compagnie, à passer les poules en Ligue des Champions, faire un 8e par exemple, ramasser 80 millions et se requalifier, peut-être que là... Mais c'est là où on les prendra au mot en disant « Mais si dans ta défense, Aguerd, Pavard et compagnie ne sont plus l'année prochaine, c'est de dire « Mais en fait, non ». Tu ne tiens jamais tes promesses. Ça sera toujours la même chose.
Mais
parce
je pense
que là,
c'est dans son ADN profond. Il adore ça.
Oui, mais ça, il aime ça. De toute façon, il n'y a qu'à voir. Parce que là, on se fait. Encore une fois, moi, j'attends parce que là, c'est pas trop mal l'OM. On verra à la fin de l'année. Mais cette dernière semaine de mercato, en vrai, c'est pas possible. C'est-à-dire que s'il manque un point à la fin de la saison pour se qualifier en Ligue des Champions ou gagner un titre, par exemple, on dira regardez Rennes, regardez toutes ces choses-là, regardez avant. Donc oui, c'est vrai que. La stabilité, c'est bien d'en parler. Moi, je ne compare pas avec le PSG, en revanche, parce que la stabilité... En fait, le PSG est super stable parce que...
Attends, je te rembobine.
Quand tu gagnes, quand tu as des salaires à 15 millions, évidemment, que tu es stable, tu ne pars pas.
Bien sûr.
Voilà, donc ça, c'est important. Mais
oui, mais
tu as
quand même une forme de rationalité, mais dans la galaxie Paris Saint-Germain.
Ah oui, là maintenant, oui. Voilà. Mais la bascule, pour moi, elle est là. C'est-à-dire que si l'OM se qualifie dans les... termine dans les 3 premiers du championnat cette année, rejoue la Ligue des Champions l'année prochaine en ayant ramassé peut-être 50 ou 60 millions, 70 millions cette année, et bien là, il faudra le prendre au mot. C'est-à-dire que oui, d'accord, tu veux gagner un titre, Pablo, mais si tu veux gagner un titre, il va falloir faire un peu de stabilité. Et là, tu peux le faire.
Par contre, ce que j'aime, c'est qu'il reparle de gagner un titre. C'est-à-dire que,
oui,
surtout dans un podcast de business...
Ce que j'aime moins, c'est que ça arrive à la fin.
Ouais, mais... C'est-à-dire les comptes dans le vert, bien vendre, ouais, bien acheter, tout ça. Quand tu prends l'essence même du... C'est pas ça qui nous fait vibrer comme supporter.
Moi, j'ai toujours été étonné à l'époque, et je me souviens...
Il va gagner un titre,
mais j'ai...
Ramène tout Marseille au Stade de France. Ou, bah, la finale de la Coupe de France, elle n'aura pas lieu au Stade de France. Mais je ne sais où. Fais vivre une émotion. Fais vibrer le gamin qui s'en souviendra 20 ans plus tard. Oui. Le gamin, il ne se souviendra pas que tu as super bien vendu...
Amine
Gouiri ou je ne sais pas qui.
Une discussion que j'avais eu, je crois que c'est un supporter monégasque qui se félicitait au 31 août, je ne sais plus quelle année, que son club avait fait de la plus-value sur les transferts.
Mais on s'en fout.
Super, mais tu bosses au Crédit Agricole, non? Bah alors tu devrais t'en foutre. Enfin, ce qui t'intéresse, c'est d'avoir des titres et d'avoir des bons joueurs.
Et c'est comme ça. Et
les souvenirs, c'est pas un transfert.
Exactement. Et les souvenirs, c'est aussi ça. C'est les joueurs auxquels tu t'identifies. À Marseille, c'est impossible. Les mecs, ça 6 mois. Construis une belle équipe avec des joueurs qui font rêver les gosses et qui restent, qui peuvent marquer des générations et qui soulèvent des trophées. C'est aussi simple que ça. C'est ce que fait le Paris Saint-Germain aujourd'hui. Ils ont incarné leur réussite. Il y a une réussite, mais ils l'ont incarné. Aujourd'hui, il y a un sentiment d'appropriation de l'équipe du Paris Saint-Germain qui avait moins un moment où, effectivement, avec Messi, avec Neymar, tu avais des incarnations, mais ils étaient trop loin des supporters.
Oui, trop impersonnels.
Le stade se sentait... Aujourd'hui, ils sont... complètement investi, c'est un projet. Le Paris Saint-Germain, c'est un projet qui fait qu'un. Et je pense qu'avec 280 millions d'euros de budget,
oui,
tu peux quand même te faire une équipe pas dégueulasse, où le Vélodrome et un fond derrière, une équipe qui dure un peu. Et après, la cerise sur le gâteau, c'est d'aller chercher des trophées. Mais fais rêver tes générations qui arrivent là. Ah, les mecs qui restent un an et demi, ça, 6 mois, ça suffit pas, quoi.
Tu prends les derniers joueurs qui ont un peu symbolisé l'OM, lesquels les supporters ont pu s'attacher. Dimitri Payet.
Mandanda, Thomas.
Pas très. Non, plus, je rajoute Guendouzi aussi.
Ouais.
Qui, pour le coup, avait vraiment cette espèce d'ADN. Voilà, bon, un peu parfois exacerbé, mais il y avait ce côté.
Oui, mais
voilà.
C'est des mecs qui sont restés longtemps aussi.
Ouais, mais Guendouzi, ça se termine très mal. Enfin, je veux dire, il ne le garde pas au moment où il faut le garder. Enfin, je veux dire, c'est pas.
Mais là, sur les dernières années, derrière, tu, voilà, tu dis
derrière,
à qui?
Moi, c'est simple. Hein, on monte les 3-4 dernières saisons si on me demande de refaire.
Rongier, à la limite, mais bon.
Oui, mais Rongier, il attache pas. Mais oui, il y a quand même cet attachement aux joueurs, mais pas un attachement viscéral comme tu peux l'avoir avec Payet, avec Mandanda.
Qui sur les dernières années?
En fait, moi, si tu me demandes là de te faire les 3 dernières années, les effectifs, je pense que je me trompe.
Ouais.
Parce que les joueurs, je veux dire, ah, bah, lui, il était là. Non, il n'était pas à ce moment-là, etc.
T'avais Rabiot à un moment qui. Et puis.
Et voilà. Il y avait Rabiot.
Voilà. Donc, bon, les trophées, c'est bien, mais tu parles de stabilité, Pablo. Ouais, vas-y, fonce.
Mais en tout cas, oui, un titre dans les 5 ans, ce serait la moindre des choses.
Ouais.
Ce serait la moindre des choses, sinon ça ferait assez long quand même de partir jusqu'en 2030.
Bon, là, on va passer à une partie que j'aime bien. Une partie un peu originale. On va vous faire les coulisses du truc. On est sur une semaine internationale, l'actualité n'est pas débordante. Et on s'est dit, on passe sur YouTube, on va faire aussi des petits formats qui vous permettront aussi de réagir. Vous aussi, vous allez pouvoir donner vos plus grosses erreurs de jugement.
Ouais, n'hésitez pas dans les commentaires, parce qu'on voulait le faire cette semaine, mais comme on n'a pas eu d'émission la semaine dernière, on ne l'a pas fait.
Ouais.
On va reprendre vos commentaires et souvent faire un débrief en début d'émission pour discuter avec vous de ce que vous nous dites. Donc, n'hésitez pas à venir argumenter surtout, pas juste dire vous avez tort, vous êtes des pipes.
Donc, le principe est simple, on va vous donner nos 3 plus grosses erreurs de jugement. De journalistes ou non d'ailleurs, parce que parfois on n'était pas encore en fonction, entre guillemets. Mais voilà, c'est des joueurs soit dont on n'a pas décelé le potentiel tout de suite, donc on s'est gouré, soit dont le potentiel était très très élevé, où on s'est dit non mais ça ne durera pas. Et, voilà. Maxime, 3 erreurs de jugement, on en fait une chacun peut-être.
Vas-y, allez, c'est parti. Moi, je commence par un joueur qui est actuellement en Ligue 1,
ouais,
qui est à Metz, qui s'appelle Benjamin Stambouli.
Ouais. Il nous avait cassé la tête avec Stambouli, Maxime.
J'étais persuadé que Benjamin Stambouli ferait une immense carrière et qu'il serait international. Ah, il a 14 sélections en espoir, donc généralement, quand tu es établi comme ça en espoir, la marche est derrière. Je me souviens de ses années à Montpellier. Évidemment, il y a l'année du titre. Et je me souviens d'une ou deux actions où je me dis, purée, il est élégant, il a du ballon. Et ça on ne peut pas lui retirer. Il est élégant, il a du ballon. Je crois que c'était un Montpellier-Ajaccio, d'ailleurs, où je le vois remonter le terrain. Je me dis, qu'est-ce que je vois là? Je dis, ça ressemble à Laurent Blanc.
Ouais. C'est pas tout à fait
la même
carrière.
Et je me souviens de l'avoir rencontré quand il était en espoir, discuter avec lui. En
petit
plus,
crush.
Non, mais je trouvais vraiment qu'il cochait toutes les cases. Et puis après, il est parti à Tottenham, ce que j'avoue que j'avais complètement oublié. Ouais. Il a joué, je crois, 12 matchs, des choses comme ça. Il a été rapatrié au PSG.
En fait, c'est
pas le bon moment, faut pas être au PSG à ce moment-là.
Tu veux mon avis sur Stambouli? De loin, parce que j'ai pas suivi. Trop gentil, trop tendre.
Ouais, peut-être.
Tu vois, c'est effectivement le mec un peu élégant et tout, mais pas fait pour les grands clubs.
Et
pour
c'est
moi.
Marrant, ça fait partie de ces joueurs que je défendais dans la rédaction corps et âme, de se dire, mais ce type-là, il a quelque chose.
C'est une obsession.
Il a un truc, il est vraiment fort, il va réussir. Et encore une fois, je voyais, alors évidemment, le parallèle avec Montpellier, parce que des fois, il joue un peu derrière Montpellier. Donc je voyais, je me dis, le milieu de terrain qui peut jouer derrière, qui a un peu de ballon, qui remonte le ballon, je me dis, je ne vais pas dire que ça allait devenir Laurent Blanc, mais je trouvais qu'il y avait une petite filiation.
Tu t'es quoi ?
Laurent Blanc l'a eu sous ses ordres Non, il ne l'a pas eu sous ses ordres, j'ai une bêtise. Mais bon, bref, ça, je me suis planté.
Moi, ma plus grosse erreur, et c'est aussi un joueur qui joue en Ligue 1 aujourd'hui, c'est Pierre-Emerick Aubameyang. Quand je l'ai vu débuter, il appartenait à l'AC Milan, tout le monde a oublié, mais il a fait quelques mois à Lille, quelques mois à Monaco, puis quelques mois à Saint-Etienne. 6 mois, 1 an à chaque fois. Et techniquement, c'était catastrophique. Mais catastrophique, c'est-à-dire que Aubameyang, ses premiers matchs en Ligue 1, c'est du tir au pigeon. Mais vraiment du tir au pigeon. C'est-à-dire qu'il y a des contrôles compliqués, trop longs, vraiment les pieds carrés. Je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ce mec-là ? Sur ses 46 premiers matchs, je crois qu'il marque 6 buts en Ligue 1. Non, mais c'est dramatique. Et en plus, il n'a pas 16 ans, quoi. C'est-à-dire qu'il est jeune, il arrive. Mais tu te dis, à Dijon, il marque 6 buts en Ligue 2. Bon. À Lille, ça ne marche pas. À Monaco, ça ne marche pas. Et les 6 premiers mois à Saint-Etienne, il met 2 buts, je me souviens, il est prêté 6 mois. Ça ne marche pas. Fait est que ça ne marche pas. Donc à un moment, tu te dis, OK, il fera sa petite carrière en Ligue 2. L'AC Milan n'en voulait plus, il ne voulait plus en entendre parler d'Aubameyang. Donc je m'étais dit, mais OK, je comprends pourquoi. Si on m'avait dit, si on m'avait dit que ce mec-là jouerait à Dortmund, à Arsenal, à Barcelone, à Marseille.
À Marseille.
Ouais, à Marseille. Mais qu'il aurait une carrière absolument gigantesque et qu'il serait un des meilleurs attaquants sur les 10, 15 dernières années, un des meilleurs attaquants du monde. Franchement, je n'y aurais pas cru. Après, on peut l'expliquer, c'est-à-dire qu'il a failli, lui aussi, sombrer dans cette politique de prêt où un grand club t'achète, te prête 6 mois. Et on voit qu'avec lui, ça ne marchait pas. C'est un mec qui avait besoin de stabilité et de constance. Il avait besoin qu'un entraîneur dise « OK, tiens, voilà les clés. On s'en fout sur ce match-là, ce qui compte. On te prend pour 1, 2, 3 ans. » Il a failli se plomber comme d'autres se sont plombés et il doit sa carrière. Et là, je dis chapeau à Christophe Galtier qui a décelé dans ce prêt de 6 mois à Saint-Etienne le talent, le potentiel d'un mec. Moi, je regardais les matchs effectivement derrière ma télé, d'un peu loin. Je me disais, c'est pas possible. Pourquoi Saint-Etienne fonce sur ce mec-là ? Après, moi, ce qu'on m'a dit, c'est qu'il y avait aussi un jeu avec l'AC Milan qui voulait prendre Ruffier. Saint-Etienne qui aurait dit, écoutez, ne prenez pas Ruffier, on vous prend Aubameyang, pour vous dire à quel point à cette époque-là, Aubameyang, personne n'en voulait. Donc, chapeau à Galtier et chapeau surtout à Aubameyang. Quant à moi, honte à moi.
Ça me fait penser à des joueurs gâchés par les politiques de prêt. Ouais. Michy Batshuayi, qui est très bon, mais à un moment, il se fait prêter partout. Et c'est marrant, ces joueurs. En fait, il faut accepter les maturations lentes.
Mais oui, et puis qu'un joueur, qu'un attaquant en plus, ait besoin de confiance et qu'on ne lui dise pas, là, ton avenir, il joue sur les 3 prochains matchs. Évidemment qu'il va frapper en l'air et qu'il va frapper dans la tribune et qu'il va faire des morts.
Et pas oublier qu'un des 2 meilleurs joueurs de l'histoire du foot français a eu une maturation lente et qu'il faut des fois accepter de ne pas juger à boule pour point. Alors moi, mon deuxième joueur, c'est sur une temporalité assez courte de 1 an et demi, on va dire. Moi, j'étais en poste, je débutais ma carrière, je commençais à suivre l'équipe de France. Et j'arrive, en fait, après mon premier Euro couvert, Euro 2004, vous savez ce qui se passe, Zidane s'en va, tout le monde s'en va, Lizarazu s'en va, etc. Là, on dit que c'est la fin, en fait, des 98.
Et donc, là, tu as le successeur de Zizou, du coup.
Pires va quitter l'équipe de France. Contre son gré, un jour de Il Ferro et France, où ça se passe sur le parking avec Raymond Domenech, ça se passe très mal. Et on sait que Raymond Domenech veut faire table rase, etc. Et là, qu'est-ce qu'il fait, Raymond Domenech, après, je me souviens du premier match des éliminatoires au Stade de France, un France-Israël, avec la 3e couronne fermée, c'est-à-dire qu'il n'y avait plus personne, à côté gauche, Evra Roten, qui avait moyennement marché, mais bon, bref, il manque quelque chose. Et bien, un moment, au rassemblement d'après, il lance Vikash Dorasso.
Et là, tu te dis, ça y est, on a le successeur de Zizou.
Faut que vous retrouviez les comptes rendus ou les notes de l'époque. Vikash Dorasso, qui joue contre notamment la Suède, je crois qu'il y a la Suisse, etc., où il fait 2 matchs, mais vraiment, où le type au milieu de terrain, il bonifie un milieu de terrain qui n'a plus de créatif, parce qu'il n'y a plus Pires, il n'y a plus Zidane, et le type, il va à des roulettes, il est vraiment... J'aimerais bien lui en parler pour lui demander si ce n'est pas le moment où il se sent le plus fort, où il se dit, mais là, attention, ça va être moi. Et en fait, on le voit un peu gros comme une maison, parce qu'encore une fois, il y a ce vide, malheureusement pour lui, peut-être heureusement pour la France, il y en a un qui revient, Zidane. Mais même à ce moment-là, je me dis, ça peut le faire parce que...
Ah, il peut peut-être mettre Zidane sur le banc.
Non, France-Côte d'Ivoire, le match du 17 août 2005 à Montpellier, 3-0 contre la Côte d'Ivoire, le retour de Zidane. eh ben, il est sur le terrain, il joue tout le match. Wow. Donc dans un rôle un peu plus reculé. Et là, on se dit, bon, ben, en plus, t'as un milieu de terrain qui a du ballon, un joueur qui est plutôt.
Dorazo Zidane, ça nous amène à la.
Techniquement.
Et je deuxième dis, titre.
Pareil, c'est pas
après,
mal.
Après, il n'a pas eu une carrière horrible non plus.
Ah non, non, je suis pas en train de dire ça. Non, mais moi, je
sauf
parle juste
toi,
de ce moment.
Voyais.
Et puis, Coupe du Monde 2006, il joue 8 minutes.
C'est terminé.
Il sort son film, The Substitute. Et souvenez-vous, je pense son action marquante de la Coupe du Monde, c'est France-Suisse. Je crois qu'il rentre en jeu. Il tire à côté, il est à deux doigts d'ouvrir le score et peut-être ça aurait changé. Mais vraiment, je pensais à l'automne et à l'hiver 2004-2005 que, alors, non pas qu'on avait un successeur Zidane tel qu'on pouvait penser comme Gourcuff, mais que la solution au problème de l'équipe de France était là. Or, je pense que les problèmes de l'équipe de France, ils dépassaient lui, c'était plus ce qu'il y avait sur le banc.
Moi, il y a un joueur aussi en équipe de France où je me suis dit, là, c'est une évidence et c'est la pièce du puzzle qui manque à l'équipe de France en 2018 à la Coupe du Monde. Cet homme, il s'appelle Thomas Lemar. Il fait un match contre les Pays-Bas en août 2017, si je ne dis pas de bêtises, où il met deux buts.
Ouais, j'y étais.
Et ensuite...
Le jour du transfert de... Non, tu n'étais pas, tu faisais le mercato, toi. C'est le jour du transfert de Mbappé.
Ouais,
ah,
31
août.
Et en mars, contre la Russie.
Ouais.
C'est la Russie
Oui, la Russie.
En mars
2018. Il y a Colombie et Russie. Je...
Non, Colombie. C'est contre la Colombie, en mars 2018, où il est monstrueux. Et c'est toute une période de l'équipe de France où on se dit, mais qui va jouer à gauche ? À droite, on a à peu près, c'est Kylian Mbappé.
Ouais.
Dans l'axe, on a à peu près, hein, c'est Giroud, Griezmann. À gauche, on n'a personne. Et à ce moment-là, je me dis, bon, ben bah, voilà, il résout tous les problèmes. Il sort d'une saison fantastique avec l'AS Monaco, qui restera sa meilleure saison ever, hein, enfin, sauf si maintenant il explose, mais bon, qui restera sa meilleure saison. Et ça fait partie, on en parlait tout à l'heure, de ces joueurs qui grossissent avec un collectif monstrueux, mais quand tu les extrais de ce collectif-là, eh ben c'est beaucoup plus compliqué. Et Thomas Lemar, je pense qu'il a manqué peut-être un peu de force, un peu de caractère, mais il est parti à l'Atlético dans un club qui mettait pas en valeur ses qualités. Il y a eu des blessures, il est resté sans doute un peu trop longtemps et il a fini par sombrer. Et même à la Coupe du Monde 2018, finalement, Deschamps lui préfère Blaise Matuidi. Alors que moi, pendant longtemps, j'ai milité pour Lemar, et que je pensais qu'on allait être champion du monde avec Lemar titulaire. Bah, ils ont été champion du monde avec Lemar remplaçant.
Alors que moi, j'ai défendu Matuidi dès le deuxième match. Vous pouvez retrouver les vidéos.
Voilà, il ne peut pas s'empêcher. Mais voilà, avec Lemar, je me suis bien trompé.
Mais
je pensais qu'on aurait l'ailier gauche de l'équipe.
Ce qui lui a manqué, je pense, d'avoir le caractère d'un Florent Malouda.
Ouais, c'est vrai, il a manqué de caractère.
Voilà, un caractère à la Malouda, le mec qui baisse pas pavillon dès qu'on
lui dit quelque chose. Je suis persuadé qu'il l'avait quand même.
Ah oui, super pied gauche. Et comme tu dis, ce match face aux Pays-Bas, c'est.
Et puis il défend.
Il avait la qualité. Et c'est fou d'ailleurs de comment.
Ses 10 premières sélections, il met 3 buts en jouant des bouts de match.
Hein. Ouais. Et comment tu disparais à un moment alors que tu. Ouais. Alors, c'est l'histoire du foot, évidemment. Il n'y a pas de la place pour tout le monde, mais. Alors moi, il y a une grande disparue.
Ah ouais, elle est bien disparue, elle. Hein.
Mais moi, je me l'explique très bien. Alors, j'ai un défaut, il faut bien en avoir un.
Ah, j'en vois pas qu'un.
C'est que, quelle que soit la compétition, et je le reconnais, je vois toujours l'Allemagne plus forte qu'elle ne l'est.
Mais c'est une obsession.
Mais parce que, et ça, je l'explique très, très facilement.
Parce que t'es né avec ça.
Je suis né avec ça, c'est-à-dire que moi, j'ai connu...
Et t'as grandi avec ça.
J'étais pas né quand l'Allemagne a gagné 74, mais il faut savoir que l'Allemagne, dans les 70, c'est Euro 72, 74 Coupe du Monde, finale Euro 76... Victoire à l'Euro 80, la RFA. Et puis derrière, c'est finale Coupe du Monde 82, finale Coupe du Monde 86, victoire en 90, finale de l'Euro 92, quart de finale, il se plante en 96 et... il se plante pas en 96, il gagne en
96. 96.
Il se plante un peu au Coupe du Monde 94 et 90. Donc pour moi, l'Allemagne...
Finale 2002.
Voilà, c'est toujours là.
Demi-finale 2006.
Et c'est vrai que je n'arrive toujours pas à faire mon deuil de me dire que l'Allemagne va toujours réussir. Et je le reconnais, à chaque compétition, j'ai un problème avec ça, c'est de penser que l'Allemagne, méfiez-vous des Allemands, parce que ceci, parce que cela. Mais en fait, le problème, c'est que... En fait, la bascule, c'est quoi ? C'est 2010, parce que vous allez me dire, 2010, ils font une bonne Coupe du Monde, ils vont en demi. Mais c'est une Allemagne qui a changé. Balak,
2014, c'est pas mal aussi.
Oui, mais 2010, mais le début de 2010, c'est-à-dire qu'ils changent complètement de paradigme.
L'ADN
a changé. Alors, 2014, évidemment.
2006, même dès 2006. Dès la Coupe du Monde chez eux.
Ils font demi-finale quand même.
Oui, mais ils changent leur ADN.
Ils changent, voilà. Et je pense que, et j'ai un problème, et je le reconnais avec ça, c'est que je ne crois jamais, comme en 2018, que l'Allemagne va se faire sortir au premier tour. Ta boîte à la dernière minute, je lui dis non, c'est pas possible.
Et nous, avant chaque début de compétition, on lui dit la même chose, je lui dis, mais enfin, Maxime. Regarde le 11 là, regarde, prends joueur par joueur, c'est minable. On lui a dit ça en 2018, on lui a dit ça en 2021.
Je défends toujours.
On lui a dit ça en 2022. Mais non, mais c'est l'Allemagne, ça passera, ça fera demi-finale. Ça.
Parce que j'ai une vision très collective du football,
Bah ouais, mais là.
Et là, ça dépasse. Oui, non, mais je le reconnais. Et à l'inverse, alors là, pour le coup, les 20 dernières années me donnent assez raison. Voilà. Je vois toujours le Brésil plus moche qu'il ne l'est.
Alors que moi, je le vois plutôt plus beau qu'il ne l'est.
Donc c'est un pardon. Mais je tiens à dire un truc. Ah. Je l'ai appris, mais vraiment en direct pour l'émission, parce que là, j'ai mon ordinateur. L'Allemagne vient de faire son retour dans le top 10 de la FIFA.
C'est pas perdu.
Donc, je pense que c'est pas perdu pour 2026.
Pas perdu. Et moi, je termine avec un joueur. Là, c'est honte à moi aussi. J'y croyais pas à ses débuts avec Marseille. C'est Stan Mandanda. Pourquoi ? Parce que quand j'ai vu un gamin de 22 ans du Havre devenir un peu par accident titulaire à l'OM, parce que Carrasco, c'était. En fait, il arrive, Carrasco se pète, hein, c'est ça, hein, ouais. Maxime. Je parle sous ton contrôle. Il se pète et il devient titulaire.
Un match à Caen qui est très réussi déjà.
22 ans.
Ouais.
Il vient du Havre. Il a foiré un essai à Aston Villa. Je me dis, le gamin, là, il va exploser en vol parce qu'il n'y a pas plus compliqué, je pense, à ce moment-là en France que d'être gardien de l'OM. Gardien du PSG, c'est un peu pas pareil. C'est-à-dire que tu es sur le poste le plus exposé du club le plus exposé de France. Et donc, je n'ai jamais cru, enfin, à ses débuts, hein, il m'a très vite fait mentir et je me suis très vite rendu compte qu'on avait, au bout d'une saison, qu'on avait quelqu'un qui avait un caractère qui dépassait un peu mes préjugés. Je me suis très vite rendu compte de ça, mais au départ, je n'y croyais absolument pas. Et même sur ses premiers matchs réussis, je me suis dit, ça va finir par craquer Mandanda parce que, en fait, c'était pas dans mon logiciel. Ça ne pouvait pas réussir comme ça à Marseille. Et il a prouvé le contraire. Et puis, il a fait une carrière de 25 ans. Il a été champion du monde, etc. Donc, mais je le voyais complètement s'écrouler au bout de quelques matchs. Donc chapeau Mandanda, chapeau Aubameyang et chapeau Lemar. Ouais. Enfin non, pas chapeau Lemar. Lemar, j'y croyais fort. Donc c'est plutôt le contraire.
Et Mandanda a fait, avec un caractère complètement différent, il a réussi ce que Barthez a réussi 15 ans avant. C'est-à-dire, il arrive dans un club qui est costaud et direct, il s'impose. Alors l'un, c'était par l'insouciance. L'autre, c'était par le talent et le caractère.
À 22 ans, t'imagines.
Ouais, mais c'est vrai que dès ce match-là, quand tu dis... Oh, il a quelque chose, et puis finalement, il a tenu. Et ce qui est marrant, c'est qu'il a eu des hauts et des bas à l'OM, mais ses bas sont arrivés quand même beaucoup plus tard, donc il a eu le temps de s'installer.
Ça reste très honnête quand même.
Ah oui, oui, ça reste très, très, très honnête.
On passe au quiz, Maxime, mais en tout cas, je suis content parce que Maxime qui reconnaît ses erreurs.
Bon, je le fais tout le temps.
Pas souvent.
Mais il n'y en a pas beaucoup, c'est
vrai. Vous avez de la chance. On terminera juste sur un.
Ah ouais,
dernier petit truc. Parce que là, on dit ce qui n'a pas marché. Dans cette salle, il y en a qu'un qui voyait la France championne du monde en 2018. Vous savez qui c'est, mais ça, je vous le dis à chaque émission. Donc voilà, il y a deux, trois petites erreurs. J'ai mis un peu de temps à trouver effectivement les mecs.
Mais bon. Le 16 juillet, il était sur le bus à Impérial avec Ben Alla.
Donc voilà, donc il y a un mec qui, dès 2014, savait qui allait être champion du monde en 2018.
Tous les deux ans, il dit ça.
Ce mec, c'est moi.
2021, l'Euro. Ouais. On va le cartonner, bam, bam, bam.
Pas du tout. Je l'ai dit une fois, on a été champion du monde. Allez, on a quelques temps pour le quiz. Salut, messieurs. Comment ça va le plus fervent représentant de la Maison Labiche ? T'es sponsorisé ou quoi ?
Non, pas sponsorisé, mais s'ils veulent, qu'ils n'hésitent pas.
Alors, c'est très bien. Il y a une faute de goût, si je peux me permettre. C'est qu'on voit le t-shirt sous le.
Ouais, je sais.
C'est le micro.
Voilà. Il y a la seule faute de goût, mais sinon.
Non, mais on est d'accord.
Sinon, c'est impeccable comme d'habitude. Ça change de Maxime.
Merci beaucoup.
On prend une petite au passage.
Ouais. Ça mange pas de pain.
Ouais. Tu voulais dire quelque chose
dernière.
Ouais.
Il était bien ton quiz.
Vous en avez parlé déjà ?
Non.
Non. Non. Bah non on, on a parlé. On a parlé du scandale.
Ah mais... voilà. Ouais. Bah oui, j'avais préparé un petit quiz aux petits oignons.
Qui était quand même à 90% sur les années 90 finalement.
Ouais.
Qui m'arrangeait bien.
C'était les buteurs français face à l'Azerbaïdjan dans l'histoire. Ouais. Alors, je l'ai fait à Martin aussi. Je l'ai fait à vous deux. Il y aura eu match.
Oui, il y aura eu match.
Je suis sûr. Je pense que j'aurais gagné. Mais bon, on ne va pas...
En coca, je pense que tu l'as pas. Ouais,
Vous avez envie de jouer, messieurs ?
On a envie de jouer. On adore jouer.
C'est
le meilleur moment de l'émission.
On adore jouer, messieurs. C'est retour de la Ligue des Champions la semaine prochaine. Ça devient une habitude. Et notamment un match Monaco-Tottenham. Monaco-Tottenham, mercredi à 21h en Ligue des Champions. Alors, on va jouer avec les Français de Tottenham. D'accord ? Et vous allez jouer à une petite nouveauté. Une petite nouveauté. Le jeu de la mosaïque ou le jeu du pixel.
Ah oui, oui.
Une photo pixelisée va apparaître à l'image et petit à petit, progressivement...
Il y en a tant que ça des Français de Tottenham, ta genre.
Elle va se dépixeliser et...
Dépixeliser.
Voilà, c'est mieux. Et le premier de vous deux qui trouve le nom en premier marque un point. Vous allez jouer en simultané. D'accord ?
Ah, donc c'est pas le premier de Ludo alors qui marque un point.
Oui. Le premier à 5.
Ah oui, d'accord.
Le premier à 5. Bonne réponse.
Pas précis dans tes explications. Ouais, on sent que le jeu, la pixel, il maîtrise moyen.
Mais non, mais.
Non, on sent que. Une image. Tu vas à tâtons que c'est du brouillon.
Ouais.
Tu nous as.
Mais ce qui va être dur, c'est qu'on va citer, peut-être si on se trompe, on va citer des noms.
Alors, est-ce qu'on partira pas du principe qu'il y a une réponse possible par.
Ouais, mais dans ce cas-là, on attend que ça se
pixelise. Bah après, c'est le premier qui trouve la réponse.
Donc c'est pas chacun notre tour.
Bah si, c'est. Vous jouez en même temps.
Oui, mais donc s'il a dit la réponse est trompée, j'attends que ça dépixelise.
Ah bah après ça vous prendre le risque ou pas.
Ah oui. Oui mais une fois que c'est dépixelisé,
c'est pas facile à dire.
Il y a l'image complète. Ouais. Donc une erreur équivaut à un point pour l'autre. Ouais. Bon son jeu c'est de la merde, on va se le dire.
J'en ai 4.
Mais, on y va.
Bon, on va voir.
Allez vas-y.
On est prêt?
Ah, j'ai 5 français moi.
Première photo.
Ce qui fait pas énorme hein.
Ah ouais, en effet.
Ah oui, c'est bien pixelisé là.
David Ginola.
David Ginola.
Bien joué, Maxime.
Ouais. C'est pourquoi je l'ai reconnu.
1-0.
C'est le maillot.
Vous avez compris le principe?
Ouais. Ouais. Merde, c'était un des 3 Français que j'avais.
Mais moi, j'en ai 5, là. Mais bon.
Allez, c'est parti, photo suivante.
Younes Kaboul.
Non.
Bah, attends, on va laisser des...
Oh, non.
Non, mais attends. C'est facile. Dalmat.
Stéphane Dalmat. Un partout.
Bah, je savais même pas que Dalmat avait joué. Donc je découvre.
Là, je me suis dit
c'est bien pour notre culture.
Photo suivante.
J'avais complètement oublié que Dalmat avait joué. Enfin, je sais même pas si j'étais au courant.
C'est bien foutu, hein, techniquement.
Il y a du boulot derrière.
On dirait Saïb.
Wow. Ah, Malbranck,
Steve Malbranck.
Ah, bien joué.
Bien joué, Martin.
Ouah, je ne me rappelais pas qu'il avait joué à Tottenham.
2-1 pour Martin.
Photo suivante. Les Français de Tottenham.
Attends, on dirait. Kaboul.
Younes Kaboul. Excellente réponse.
Ah, voilà, tu vois.
3-1. Bravo Marc, tu le détaches.
Viltord.
Non.
Mais non, elle ressemble à Viltord.
Photo suivante.
Oh, mais attends. C'est bien fait en tout cas. Hein.
C'est pas William Gallas ?
William Gallas, excellente réponse. Bien joué Maxime.
3-2.
On continue.
Là, c'est impossible. Tu aurais pu nous épargner ça.
C'est pour monter le suspense.
Eh oui.
Alors. Ça.
Louis, ça. Exactement.
Tu savais qu'il avait joué à Tottenham.
Mais non, mais c'est pas grave.
Absolument pas qu'il ait joué à Tottenham. Mais il a fait combien de matchs à Tottenham?
Attention, on est déjà sur des balles de match là pour Martin.
Mais est-ce que tu avais reconnu ça ou pas quelque part?
Non, pas encore.
Parce que moi, je dis des mecs, je sais même pas qui.
Non,
Dalmat.
Ah ouais, Dalmat. Bah si, je l'avais reconnu après, mais possible de.
Mais j'aimerais bien toutes les faire, même si je gagne, parce que
c'est
j'aime
bien. Oui, bien sûr, allons-y. 4-2, balle de match.
Hugo Lloris.
Alors, on me dit en régie, c'est Maxime.
Ah ben.
On me dit en régie, c'est Maxime.
Là, c'est une arnaque, là, t'as vu le maillot jaune.
Bah, le maillot jaune, bah oui, c'est le maillot jaune.
Je l'attendais depuis tout à l'heure.
Ouais. Hugo Lloris, 4-3, quel match.
Putain, mais attends.
C'est palpitant. Photo suivante.
C'est plus dur. Ah. Oui, Capou.
Étienne Capou. Oh. Magnifique. Étienne Capou, bien sûr.
Bravo.
Bravo. Bravo.
On a combien? Une 9, là?
5-3.
Ouais, ça fait 8.
Alors, il nous en reste 4.
Pour le plaisir. Lloris, on lui donne. Hein. Je ne vais pas chipoter.
Pour le plaisir, on se fait les 4 derniers.
J'aime bien quand il est 4.
Je lui ai donné Kaboul. Kaboul, il se rappelait même plus qu'il jouait.
Là, 7.
Et je peux te donner.
Ce Maxime-là, c'est mon préféré.
Sur les voir, je peux, t'en donner 2 déjà.
Là, c'est le Maxime Prime.
Je peux t'en donner 2 sur les voir.
Mais on s'en fout, c'est pas le jeu. On s'en fout,
c'est pas le jeu.
Mais c'est pas le jeu. Il ne comprend pas que c'est pas le jeu.
Allez, les 4 dernières pour le plaisir. Pour le plaisir, Maxime.
Là, on peut.
Mais je m'en fous, moi.
Je m'en fous, moi, ouais, t'as bien l'air de t'en foutre.
Un mec qui a marqué. Ah, bah, c'est pas Benjamin Stambouli ?
Benjamin Stambouli.
Putain, ouais, c'est le tien. Bah,
hey. Bah, oui, je l'ai dit tout à l'heure.
On en parlait. Ah, tu l'as dit tout à l'heure ?
Mais oui, j'en ai parlé. Il a joué 12 matchs à Tottenham. Ah, oui. Et c'est pour ça, quand il a commencé le coup, j'ai dit merde.
Photo suivante.
Moussa Sissoko.
Ouais. Moussa Sissoko, très fort, Maxime.
Non, mais c'est bien.
Ouais, c'est
bien.
Pour dire, si on était jusqu'à 12.
Non, bah oui, mais c'est le premier à 5. Là, il y a 5-5. C'est le premier
à 5.
C'est le premier à 5.
Photo suivante.
Tanguy Ndombele.
Ouais. Tanguy Ndombele, attention, le dernier.
Bah, il en reste un que je connais.
Vas-y.
Clément Langlais.
Oui.
Clément Langlais.
Voilà, donc c'est quand même une leçon. On peut aller jusqu'à 12. Et on peut aller jusqu'à 30, jusqu'à 50, jusqu'à 120 si tu veux. On peut aller jusqu'à 120. Hein.
J'aurais pas dû donner Younes Kaboul.
Ouais. Mais enfin, sinon, ça, j'aurais quand même venu.
Je ne me rappelais plus.
Pas de problème. Ouais. Pas de problème. Voilà.
Mais
ça vous a plu?
Mais oui,
regardez, ce que j'aime, c'est ça.
Mais moi, je me suis amusé. Donc
par contre, j'ai beaucoup aimé. Oui. C'est bien.
C'était plus simple à jouer qu'à expliquer.
Oui, parce que ton explication était fumeuse. Ouais. Je me suis dit, on va droit dans le mur. Et non, c'était très bien.
Merci.
C'est très bien, cette petite pixelisation. Mais il n'y a que Lloris qu'on a trouvé tout de suite.
Eh oui.
Bah oui, mais ça, de toute façon, on l'attendait tous, hein, le maillot, le maillot d'une couleur différente.
C'est un peu le mec le plus connu qui jouait à Tottenham. Merci, Quentin.
Merci, messieurs.
Merci, Maxime.
On se retrouve la semaine prochaine.
Avec plaisir.
J'espère.
On espère, on touche du bois.
Bah, la semaine prochaine, et puis merci.
Merci la vie.
Merci la vie. Merci de nous suivre sur YouTube. Et à manger. Et bon appétit. Ciao, ciao.
Salut. Ciao.